Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5 épisode 17 avec autour de la table nos chroniqueurs pour débriefer de l'actualité. On commence avec toi Charles, comment tu vas bien ?
Ben écoute, bonjour à tous, et ça va ma foi très bien, et ravi de vous retrouver pour débriefer de l'actualité sportive très dense.
Très dense, comme tu dis à côté de moi, c'est Jean-Marc, comment tu vas bien mon pote ?
Eh ben ça va très bien, bonsoir à tous, et j'en profite pour dédicacer cette émission à Nico et Benoît.
On les embrasse. Le troisième larron autour de cette table, c'est Jérém. Salut Jérém, comment que ça va bien ce soir ?
Écoute, je vais très bien et je souhaite une bonne émission à toutes et à tous.
Et j'oublie pas notre réal en cabine, c'est Maëlan. Salut Maëlan.
Salut à toutes et à tous.
Alors au sommaire ce soir, c'est bien simple, on démarre avec l'événement. L'événement, c'est les Jeux Olympiques. On va faire le compte sur ce qui s'est passé ce week-end. Dans la foulée, on s'occupe de nos clubs, les clubs nantais, en tout cas ceux qui étaient sur le pont. On continue avec la traditionnelle page football, Ligue 1, championnat étranger, et on reviendra sur ce qui s'est passé pendant la CAN, et puis Multizone, bien sûr, le reste de l'actualité sportive, tous les résultats du week-end. Voilà Mélan, on est parti, c'est Highlight.
Money Time. Highlight. On discute, on échange et on analyse autour d'un invité ou d'un événement. Highlight. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et l'événement de ce mois de février, il a commencé ce week-end, les garçons. J'avais bien entendu parler des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Alors, pour nos bleus, ça a commencé samedi avec du biathlon. On revient sur ce relais, c'était le relais mixte.
Et on perd une place au final, mais c'est bien quand même, on fait une médaille.
Bah, c'est une belle médaille d'argent. C'est vrai que par rapport à Pyeongchang, où on avait réussi à prendre la médaille d'or, là, bah, on conserve comme médaille, c'est une belle médaille d'argent. On s'est battu jusqu'à la fin en plus pour la médaille d'or. Malheureusement, en plus, avec tous les tours de pénalité qu'on a en plus...
Il y en a un de trop sur les trois.
C'est ça, je pense que... Alors que sinon, on gagnait tranquillement peut-être pas tranquillement, mais on était vraiment...
Scénario heureux, en tout cas, puisqu'après le premier tir, on est déjà très très loin. On imagine... Bon, on sait que le biathlon, c'est 8 tirs sur un relais, donc... Mais on n'est pas bien, et puis après, finalement, le cinquième tir, on se retrouve dans une position idéale, puisque c'est...
Julia Simon qui avait passé
le relais en tête à Émilien Jacquelin.
Qui avait fait un très bon tir couché.
Ah oui, 5 sur 5 sur le couché, et puis il se craque sur le debout.
Presque une minute d'avance sur la Norvège, à ce moment-là, Et puis, ça nous a donné un super finish aussi entre la Norvège, la France et la Russie.
Oui, avec
le comité olympique des républiques russes.
Donc, c'était super pour lancer les épreuves de biathlon. Le biathlon a continué ce matin avec l'individuel. Et encore une bonne nouvelle.
Et oui, puisqu'Anaïs Chevalier-Boucher, qui nous devait une revanche, où c'était elle presque qui, elle l'a dit d'elle-même, qu'elle avait le moins bien tiré sur le relais mixte, elle a fait une seule faute. La 19e balle qui vient pour un petit millimètre accrocher le bord. Et du coup, 19 sur 20, elle prend la deuxième place.
Première médaille olympique en indiv pour Anaïs Chevalier-Boucher.
Oui, ce soir.
Et la première en indiv depuis 2006 et les Jeux de Turin. Et bah, oui, chez les femmes, hein, donc.
Non, mais c'est vrai
belle
que
perf, hein.
Non, mais c'est une très belle performance pour Annie Chevalier, hein, un 19 sur 20 magnifique. Elle a seulement 9 secondes de Denise Herrmann, dont on connaît quand même les qualités sur les skis. Donc, on a vraiment une belle performance pour la Française et qui, du coup, bah, une nouvelle médaille d'argent. Et ça, enfin, pour l'instant, en termes de biathlon, c'est 2 courses de médailles. On peut pour l'instant on peut rien demander de mieux hormis une médaille d'or, mais bon, enfin c'est déjà très bien, et je pense que ce type de médaille c'est un appel d'autres.
Sur l'individu, on attendait plutôt bah, les deux filles qui
Julia Simon et Justine
Brezaz, qui passent complètement à côté de leur course. Bah, Julia... 21e et 30e.
Mais Julia Simon, qui pourtant, avant le dernier
tir, bon départ.
Très bon départ. Julia Simon qui est vraiment présente. Elle est 4e provisoire avant le dernier tir. Et puis là, en cas de... si elle faisait 5 sur 5, elle jouait la victoire. Même avec un 4, elle jouait potentiellement le podium. Même si elle, elle serait peut-être un peu loin. Mais en tout cas, elle s'est craquée 3 fois. Faute sur le dernier tir, et là bah, on a compris que les espoirs de médaille sont volés rapidement.
Oui, parce que sur le temps réel de ski, elle met 1 minute 20 de moins, je crois, que Denise Herrmann.
Non, mais c'est ça. C'est pour dire ton niveau à ski où elle en était par rapport aux autres. Et pareil, bah, Justine Brezaz, qui malheureusement, elle, bah, c'est un beau ski. Pareil, c'est 5 fautes, je crois, pour elle. Donc c'est compliqué d'exister dans une course où finalement, même sur les skis, elle n'a pas si été tranchante que par rapport que sur les autres fois. Donc c'est compliqué d'exister et d'essayer de choper une médaille.
Ouais, la victoire qui revient à Denise Herrmann, nouvelle championne olympique de l'individuel, devant donc Anaïs Chevalier. Roysland.
Roysland, voilà, toujours
la leader du classement général de la Coupe du Monde, qui prend. Sa première breloque des championnats.
Et c'est pas passé loin pour Vanessa Voigt.
Les Allemands qui retrouvent le sourire en biathlon, et ça faisait un petit moment. Et je voulais vous dire, est-ce que vous savez quand est-ce qu'a eu lieu le seul titre français en individuel femme ?
Le titre. 92.
Ah, t'y es presque, ça c'était par équipe. C'était 94, Lille et le Hammer, et c'était Anne Briand.
Eh bien, on espère qu'elle aura une successeuse cette année à Pékin. Allez, on va passer sur d'autres disciplines. La bonne nouvelle de la journée est venue du ski alpin avec cette merveilleuse deuxième place pour le vétéran Johan Claret.
C'est ça. Et déjà, pour remettre dans le contexte, la descente qui a été, les entraînements qui ont été annulés, la descente reportée aujourd'hui ce matin à 5h entre les deux manches de géants de féminin.
Gendarme, oui.
Donc on est sur une configuration très, très peu optimale pour forcément performer. Et pourtant, bah, la bonne surprise pour du côté français, bah, comme tu le dis, c'est Joanne Clary qui fait une belle deuxième place à 41 ans. C'est magnifique.
Elle est partie avec le dossard 19 derrière tous les favoris, dont les Autrichiens,
Mathias Mayer qui avait ouvert la piste
avec le temps référence. Mathias Mayer s'est d'abord intercalé à la première place, puis c'est Bitfuse qui a pris le Leeds avant donc le départ de Johan Claret.
Et à la dernière bosse, Johan Claret a 1/100 d'avance sur Beat Feuys.
Non, mais c'est pour dire.
Et c'était très très serré puisqu'il y a 1/100 10 centièmes d'avance.
10 centièmes de retard à l'arrivée.
Voilà, et puis 6 entre Mayer et Claret.
Énorme perf hein, donc pour Johan Claret, hein, qui ne s'alignera sur aucune autre discipline. Donc pour lui, les jeux sont réussis. Médaille d'argent autour du cou.
Je sentais bien une bonne médaille comme ça, moi.
C'est la médaille qu'on n'attend pas, celle-là.
Voilà, mais c'est celle qui arrive souvent en descente, sur l'alpin avec les Français. Et il faut savoir que Johan Claret, il y a 2 ans, au début du Covid, pensait qu'il n'irait pas à Pékin, qu'il aurait arrêté avant. Donc il a bien fait de continuer.
Demain, ça continue avec le Super G, messieurs. Donc on aura Alexis Pinturault pour essayer d'aller chercher une médaille, pourquoi pas un titre. Même si on n'y croit pas trop sur cette discipline, ça sera plus pour Marco Odermatt.
Oui, bah forcément.
Qui a été pas mal sur la descente aujourd'hui.
Oui, il a fait, je crois, 7e place.
C'est ça.
Donc on le connaît, il est présent.
Il est là partout, toujours
là, comme tu le dis, partout. Donc c'est pas étonnant de le voir bien placé. Bon, c'est pas une médaille, mais en tout cas, demain, on sait qu'il sera là, présent pour jouer la victoire.
Ouais, et puis une piste qui surprend tout le monde avec des changements de rythme. C'est du costaud.
En plus, comme tu me disais avant l'émission, c'est une piste que personne ne connaît vraiment parce que c'est une nouvelle.
Tout le monde la découvre.
Nouveau,
ils l'ont construit pour. Hein.
C'est ça. Donc ça, c'est vraiment quelques.
Ouais, ça sera utilisé, je pense, pour des manches de Coupe du Monde.
Oui, hein. Bah après maintenant.
Toutes ces infrastructures qui sont d'ailleurs superbes. Hein.
Oui.
Bon, même si ça surprend parfois quand on voit
le slopestyle avec les cheminées nucléaires.
C'est ça, les réacteurs nucléaires derrière.
Et d'ailleurs, à propos
ça vaut
de.
Alors, dans 4 ans,
si c'est slopestyle. Style, ouais. La performance improbable d'une néo-zélandaise Zoe, tu veux m'aider pour le nom
pour
première médaille pour la Nouvelle-Zélande
en Jeux Olympiques d'hiver.
C'est Zadowski.
Chipote.
Zadowski Sinot.
Sinot,
voilà. Ouais. Effectivement. Donc, oui, qui est première médaille d'or pour la Nouvelle-Zélande aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc, ça, ouais. C'est impressionnant.
Belle presta. Mm-hmm.
Et du coup, chez les hommes, c'est le Canadien Maxime Parot qui remporte la médaille d'or, lui qui revient d'un cancer.
Exactement.
Donc, c'est une belle revanche, une belle médaille d'or pour lui.
Slopestyle, test le 2 qualifié. Mm-hmm. Donc, pour la finale, on suivra ça demain avec là, on espère bien sûr, une médaille. Hein.
Ouais.
Le français, lui, Alice, a été éliminé.
À la 10.
Ouais. Parce qu'ils n'ont pas vu, le jury n'a pas vu tous les graves qu'il a fait, en fait.
Oui, non, mais
c'est grave.
C'est grave. Non, mais de toute façon, toutes ces compétitions, ça se juge à l'œil, c'est l'œil humain, c'est même tout ça. Donc, c'est très subjectif, finalement. Et donc, c'est compliqué d'avoir une note très réelle, entre guillemets, qui représente.
C'est pour ça qu'on n'en voudra pas à Ben Cavet.
Skid Boss, le week-end de raté. Pour les skieurs Ben Cavet et Perrine Laffont.
Hein, quatrième, tous les deux.
Contenter de la médaille en chocolat ou amer.
Bah, c'est ça, là c'est un chocolat très très noir. Mais c'est.
Ouais, tous les deux, ils auraient pu prétendre être sur le podium. C'est un choix
alors,
de jury. Hein.
Ben Cavet méritait largement sa place sur le podium.
Le japonais aurait dû pas finir troisième.
Le japonais bien noté. Hein,
voilà,
surnoté.
Est-ce que c'est parce qu'on est en Asie
Surnoté.
Non, mais est-ce que c'est pas parce qu'on est en Asie peut-être? Non, je veux pas être la théorie du complot, mais.
Non, mais après, c'est tous les sports de notation.
C'est
jugement. Et pareil, un peu sévère aussi sur. Perrine Laffont,
ouais,
qui
aussi.
Fait un presta propre.
Et qui finit en quatrième.
Donc c'est pour ça, quatrième, ouais. On ne peut pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute, c'est la faute des juges.
C'est Jakarta Anthony,
l'Australienne
qui s'est imposée largement pour du côté des femmes, et alors que du côté des hommes, c'est Wahlberg, le Suédois, qui s'est imposé.
À la surprise générale, devant Michael Kingsbury, le dieu de la discipline.
Il avait été parfait, hein. Il était extrêmement propre.
Moins rapide, mais des sauts.
En mode bouchon de champagne, comme ils disent.
Exactement, sorti bouchon de champagne, superbe. Exactement. Mais ça ne suffira pas, Michael Kingsbury, qui ne sera pas double champion olympique. Ouais. Par contre, un garçon qui peut l'être, c'est le japonais Kobayashi. Hein, sur petit tremplin, il s'impose.
Là, il fait un magnifique japonais qui s'impose sur petit tremplin. Il a au-dessus de la concurrence. Hein. En plus, on sait qu'au Japon, c'est
lui
fortement
qui a gagné
la
tournée des 4 tremplins cet hiver. Donc, c'est l'homme en forme.
Et surtout qu'au Japon, c'est une discipline qui est extrêmement appréciée et qui vaut son pesant d'or.
Oui, à l'instar des sumo ou du kering. Hein, fait partie de la culture sportive des Japonais. Bon, en attendant d'autres résultats.
On peut donner quelques autres résultats. Par exemple, patinage artistique, c'était sur le par équipe mixte. Et là, ce sont les Russes qui se sont imposés juste devant les États-Unis. Donc, une belle victoire pour le comité
on
olympique.
On sait quand les Français rentrent en piste, tendance sur glace.
Bonne question, mais ça devrait.
C'est pas cette semaine, remarque.
Non, ça doit être cette semaine, mais pas tout de suite dans l'immédiat.
Fin de semaine,
c'est ça.
Surveillez vos écrans.
Okay.
Exactement.
D'autres infos.
C'était Sarah Hector, du coup, qui s'était imposée en super G.
Géant.
Du côté des femmes.
Ouais, Federica Brigoni, Lara Gut qui complète le podium.
Là où Tessa Worley, du coup, a chuté en deuxième manche. Donc. C'est compliqué.
Il lui restera le Super G et puis le Team Event pour éventuellement avoir des médailles. Mm-hmm. On pense qu'elle va se reprendre. Hein. C'est une compétitrice.
Exactement. Et un petit dernier résultat, c'est sur en skiathlon homme avec la belle victoire du Russe Bolshunov.
Premier titre pour lui. Hein, lui qui collectionnait les titres de vice-champion olympique.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le skiathlon?
Bah, le skiathlon, c'est un peu du... C'est du ski de fond. Hein, c'est du ski de fond. Et sachant que le skiathlon, c'est... Il y a une partie, c'est 30 km, avec une première partie de 15 km en...
style classique.
Et le dernier...
Classique, vraiment. Voilà. Bâton, un ski devant l'autre. Et le style libre, c'est celui qu'on voit en biathlon, donc avec les deux skis... En flèche.
Exactement.
Le fameux pas de patineur.
Pas de patineur. Ouais.
Exactement. Le premier français, c'est Paris, qui finit 10e, Lapierre 14e ou encore Mémoris Magnificat 23e.
Eh bien, c'est parfait. Bien sûr, on vous parle de la suite de ces Jeux Olympiques. Mmh. Lundi prochain, les Maëlan, on enchaîne. On va parler des résultats de nos clubs nantais. C'est le score en stock, bien sûr.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer la rubrique avec du handball et avec toi Jérémy pour nous parler de la semaine des Neptunes. Ça avait démarré mercredi dans la Drôme.
Tout à fait, une grosse semaine en jeu pour les Neptunes, que ce soit en championnat et aussi bien en European League. Et en championnat, elles ont plutôt bien démarré l'affaire.
Il y avait revanche à prendre avec Bourg-de-Péage qui était venu gagner ici.
Voilà, tout à fait. Après, et la revanche qui a été prise et magnifiquement avec une victoire.
Alors, magnifiquement, mais très très long, puisqu'elles ont été menées tout le match, et c'est dans les 4 dernières minutes qu'elles vont prendre le lead pour l'emporter.
C'est ça, et grâce à leur force collective et force mentale, elles ont réussi à verser la tendance et mener de finalement finir le score à
34-30, un gros money time pour les Neptunes.
Pour les Neptunes, et ce qui est parfait pour elles, c'est que là maintenant, elles sont ex aequo derrière Besançon, la prochaine équipe qui va rencontrer la
dès mercredi, ouais. Belle presta de Hagman, 10 buts. Et Marie Bergoum, 7 buts.
Et même Orlanda, 5 buts, ce qui est arrivé très rarement depuis ces derniers matchs.
De bon augure avant la réception donc, de Besançon en championnat. Mais elles avaient aussi quelque chose à régler. Le deuxième acte de leur affrontement contre les Roumaines de Baia-Mare.
Et elles devaient confirmer leur belle victoire au match aller, qui ça n'a pas pu être bien fait comme il faut, car elles ont perdu 28-26.
Un match très serré, hein, où elles ont couru après le score tout le match.
Ouais, vraiment très serré, et où même Nathalie Hagman n'a pas été très performante lors de ce match-là, parce qu'elle a marqué que 4 petits buts. Mais heureusement que le reste du collectif ont réussi à marquer à mettre leur pion à l'édifice, mais ça a été très dur pour elles. Et espérons une bonne meilleure suite pour elles lors de ce championnat européen, car là, tous les compteurs sont à zéro avec Baia-Mare.
Une meilleure différence de but particulière.
Parce qu'en cas de victoire de Nantes et de Bitigheim, ça a été la fin, les deux étaient qualifiés. Mais du coup, Nantes se déplacera dimanche à Bitigheim.
Voilà.
Pour essayer de prendre la revanche du match aller.
Dans le même temps, donc,
et
ça sera
mercredi, il y a... Oui, exactement. Et puis mercredi, donc, on vous rappelle, le match contre Besançon, on y sera tous les deux à 20h.
Ouais, pour remonter un petit peu plus haut dans ce classement de ligue.
Parce que si elle gagne, elle repasse devant Besançon et colle derrière Brest si Brest fait une mauvaise performance ce mercredi.
Eh ben on suivra ça, on passe au garçon, le H qui reprenait le championnat avec un déplacement dans le Var à Saint-Raph.
C'était hier.
C'est ça.
Et après
une trêve internationale, le match a plutôt bien démarré avec un 3-0.
Ouais.
Et après, gros contre-coup où ils sont menés 5-0.
Ouais, ils prennent un
5-0 après dans la filée. Et au moment du réveil de Emile Nielsen qui s'est mis à tout arrêter, et la machine a un peu carburé.
Mais à la pause, Nantes mène 15-11.
15-11, voilà, tout à fait.
Milou en chaleur, donc ça, on l'a dit, 14 arrêts, vraiment l'homme du match, hein, man of the match. Et en deuxième mi-temps, H qui déroule.
Qui va même avoir 7 buts d'avant, je crois, à la 52e, 25.
Jusqu'à 9, hein.
9, pardon.
Ils sont arrivés 25, 19. Et pendant un moment, ils sont même arrivés à 10 buts d'avance.
Oui.
Ça c'est bien. Dans le même temps, on sait que Nîmes a été tenu en échec à Cesson-Rennes.
Match de fou furieux. Le gardien aurait dû être expulsé d'ailleurs, le gardien de Rennes. Et Nîmes qui va arracher le nul sur pénalty, enfin sur 7 mètres, par notre ami Guigou à la dernière seconde. Ce qui nous arrange beaucoup.
Ouais. Et puis, Ex qui gagne d'un tout petit but
à Chartres.
à Chartres, 32-31.
Qui permet de leur rester juste derrière le H.
Ouais, avec un match en moins. Donc ça, c'est vraiment l'adversaire hein, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu hein, pour la qualif en Champions. Aix, bien sûr.
Oui, 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 bah oui.
On n'ira pas chercher Paris.
Au programme des Nantais, samedi, réception de Saint-Raphaël, encore. Voilà. Et puis, je crois que c'est lundi, réception de Cox.
Non, c'est mercredi.
Mercredi. Ah, j'ai pas la bonne date.
Mercredi, réception de Cox. Et d'ici là, cette semaine, on doit aller se balader du côté de Lemgo en Coupe d'Europe.
Ah, je savais pas.
Si je dis pas.
On
vérifiera ça.
Je vais y aller.
On passe sur le volet et le NMRV qui fait une super semaine.
Super perf. Alors, du coup, avec cette victoire face à Toulouse 3-7-2. Nantes qui mène les deux premiers sets, 25-14, 25-23. Extinction des Lumières. Toulouse gagne les 3e et 4e sets. Et Nantes va l'emporter 15-12 dans le 5e set au tie-break. À noter la belle perf de Michel de Souza Sareva, le Brésilien, avec 17 points que j'ai eu l'occasion de croiser à la patinoire samedi. Il est très sympathique, je vous le dis.
Et donc au classement, Nantes, le NRMV est 7e au classement à égalité avec Paris et pas si loin de Nice, 6e à 28 points, donc peut jouer les play-offs.
Exactement.
Oui, les play-offs en vue, là.
Nice qui vont jouer vendredi d'ailleurs. Ils se déplacent à Nice pour aller chercher. Et juste après, la semaine prochaine, il y aura le match en retard contre Poitiers, qui possiblement, c'est en gagnant ces deux matchs, Nantes passerait devant Nice. Objectif étant d'aller chercher la 5e place pour avoir le meilleur play-off possible.
Évidemment.
Le moins mauvais. Tu
le vois. Moins mauvais, voilà.
Après, ce sera pas évident d'aller chercher la 5e place. On n'est pas
Non, mais... Enfin, bon, on sait que, genre, Tours, Chaumont, c'est quoi qu'il y a, Narbonne.
Toulouse,
c'est derrière.
C'est
Montpellier.
Montpellier, voilà. 7, c'est Narbonne. Tours, Montpellier, Narbonne, 7, Chaumont.
Voilà.
Et Nice après. 6e.
Donc cela, c'est compliqué. Il faut essayer d'être juste derrière, quoi.
Allez, un mot des filles. VBN qui l'emporte après avoir souffert.
Eh oui, c'était contre Saint-Raphaël. Victoire 3-7-2. Là, elle perd les deux premiers sets. Et puis, elle emporte 25-19, 25-23 et 11-15 dans le tie-break. À noter la belle perf de Jay Linkin qui était à 24 points.
Et du coup, Nantes qui est toujours troisième au classement et qui se rapproche de Mulhouse-Canet, même si le Mulhouse et le Canet ont toujours deux matchs en retard par rapport à nos Nantaises, mais qui du coup sont quand même assez loin devant Cannes, dans le sens où elles ont deux matchs de retard, même si elles n'ont que deux points d'avance.
Oui. Alors au programme, demain, c'est la réception de Chamalières. J'y serai pour vous. Et la superbe affiche de la saison, c'est samedi à Mangin-Beaulieu, à 19h, la réception de la SPTT Mulhouse.
C'est ça.
Allez, un mot de basket.
Allez, basket. L'Hermine de Nantes qui s'incline à Antibes, 86-63. Ils perdent les deux premiers quart-temps. Il n'y a que le troisième quart-temps qui gagne de 5 points. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas trop compter sur ce match-là. Je vous l'avais presque annoncé perdu d'avance. Donc bon, au classement, ça donne qu'ils sont 15e. À noter quand même, en dehors de Saint-Chamond qui concède un match en plus, derrière, c'est que des équipes qui ont joué longtemps en Pro A, puisque c'est Chalon, Nancy et Antibes.
Exactement.
Prochain match du coup, c'est demain aussi, le 8. Déplacement à Boulazac et puis vendredi, et là c'est vraiment le match où il va falloir démarrer la saison pour l'équipe de Jean-Marc Dupraz, ça sera la réception d'Evreux à 20h.
Vive le Normand.
Exactement. Et pour les filles, du coup, tu parlais de Normand. Victoire des déferlantes à Cherbourg, 74-53. Du coup, Cherbourg est relégué. Pour Nantes, il va falloir continuer comme ça. Ça aussi, elles sont presque sauvées. Au programme, le prochain match, ça sera le 19 février, la réception de Calais. En cas de victoire contre Calais, les déferlantes seraient sauvées en Ligue 2. Et alors, pour le rugby, je vous précise, le match a été reporté contre Tours, malheureusement. Et puis autrement, j'avais... Alors, du foot féminin. Avec la magnifique victoire des Nantaises à Brest grâce à leur nouvelle attaquante Thelma Henninger à la 28e. Anaël Lemoguedec marque à la 58e, Lorraine Wallick la 76e et Pilar Coury la 88e. Du coup, les Nantaises sont premières avec 28 points. Et au programme, dimanche prochain, allez tous à Sopin, réception de l'US Saint-Malo à 15h.
C'est gratuit, n'oubliez pas.
Je suis d'accord, il faut toujours le préciser. Les garçons, on en parlera tout à l'heure. Mais moi, je vais vous parler de hockey sur glace et de la prestation des hommes de Martin Lacroix qui ont enfin gagné. Alors,
enfin,
c'était qu'il y a deux matchs, mais en fait, on a toujours l'impression que c'est très très long. Puisqu'entre-temps, ils avaient été perdre à l'extérieur. Victoire 5-4, un match compliqué face à l'Étoile Noire de Strasbourg. Puisque Nantes a mené 2-0 grâce à Crowder et Bergeron au bout de 3 minutes. Et puis là, les Nantais ont encaissé 3 buts d'un coup. Heureusement, Quentin Jacquier réagit à la 29e, égalise. Mais l'Étoile Noire de Strasbourg va reprendre l'avantage. Et c'est dans le dernier tiers-temps encore Quentin Jacquier qui égalise avant de permettre à Tanguy Auger de donner la victoire aux Nantais à la 53e minute. Donc, victoire des Nantais 5-4 au classement Nantais 7e et va se déplacer à Cholet chez le leader samedi prochain 19h30. On y sera. C'est un très gros match et je voulais annoncer aussi que le 15
réception.
À 20h, la réception de Neuilly en match en retard.
La semaine du 15, il va y avoir 3 matchs à domicile pour les Corsaires.
Hein. Et l'interview de Martin qu'on peut écouter.
Oui, on va écouter Martin, bien sûr.
Martin Lacroix au micro de Prune de Maëlan.
C'est un match, encore une fois, très serré. On s'est fait peur après un excellent match à 2-0. Je pense qu'évidemment, ils ont joué avec l'énergie du désespoir, autant que nous. On est deux équipes qui veulent absolument terminer dans le top 8 pour une qualification pour les playoffs. Oui, on a fait des erreurs qui nous ont coûté des buts. On a eu trop de pénalités aussi à un certain moment. On a créé peut-être, je dirais, des revirements qui nous ont fait mal. Mais je pense que c'était statistique de la saison. Les 3 points, c'est ce qui est le plus important. On est rendu à un point où le seul calcul qu'il faut faire, c'est vraiment le classement. Puis je pense qu'avec la force de caractère qu'on a démontrée au troisième tiers, on est venu très, très fort. Puis on a réussi à tenir le fort en fin de match. Fait que c'est bon pour nous. On a passé toute la saison à jouer des matchs très, très serrés qui trop souvent ont basculé contre nous. Puis ce soir, on évite la prolongation, ce qui est une très bonne chose. Puis on prend les 3 points avec une victoire en temps régulier. Donc c'est bon pour le classement. Puis c'est aussi bon parce qu'on va à Chalet le week-end prochain. Donc on sait que c'est la meilleure équipe du championnat en ce moment. Ils sont premiers. Donc voilà, fait qu'on aura toute la semaine pour se préparer pour un gros match à Cholet la semaine prochaine.
Vous avez compris que notre coach préféré est déjà concentré sur le match de Cholet. Je pense que la glace va fondre là-bas à Cholet chez les Dogs.
Allez, on a été complet sur les résultats de nos clubs nantais. On va passer à la suite, on va parler de football. C'est le Prune Football Club.
Money time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle de Ligue 1 et on parle bien sûr de nos Canaries. Le FC Nantes, Jérém, avec un déplacement important à Strasbourg chez un concurrent direct pour les places européennes.
Voilà, et Strasbourg qui, sur un match qui a été un peu pénible pour les deux équipes, Strasbourg au finish et à la qualité de leur tireur, dû surtout à une grosse erreur du défenseur nantais qui a...
La toile, hein. Fabio, elle lui passe sous le pied et ça coûte cher à la 74e.
Il contrôle, mais
il en profite.
Ouais, il met un gros bourrin dans la fond qui la fond peut juste la toucher.
Il peut rien faire, il se fait allumer.
Franchement,
la
lunette, mais je connaissais Casper le fantôme, maintenant je connais Casper le Fabio qui laisse passer les objets entre lui. Non, mais
là, il y a grosse boulette. Alors c'est dommage parce que Fabio faisait des bons matchs ces derniers temps et puis là, il fait the grosse boulette. Alors après, d'un autre côté, on peut aussi regretter le manque d'occasion des Nantais. Ouais. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup.
Pauvre match. Hein.
Bah, face à des Strasbourgeois qui défendent bien, qui franchement attaquent bien. Et c'est pas étonnant qu'ils soient actuellement quatrième au classement. Hein. Donc, c'est vraiment une équipe très performante. Hein.
Et Strasbourg qui assume leur nouveau statut de quatrième et qui veut embêter les premiers du classement.
Liénard en Ligue des Champions, moi j'annonce. Je veux Liénard en Ligue des Champions. Face à des.
La légende. Moi, je préfère le voir. Ah, ça dépend de Francfort. Ah, c'est le moment que j'ai mon derby de la saucisse.
Allez, on enchaîne d'autres résultats et on parle tout de suite de notre voisin René qui, dans son derby, s'est imposé 2-0 face à Rennes.
Une bonne victoire, tranquille. Gaëtan Laborde qui ouvre le score à la 20e et Martin Terrier qui vient mettre le deuxième à la 90e. Donc, les Rennais qui se relancent bien et une bonne victoire face à des Brestois qui ont un petit peu plus de mal en ce moment.
Les Lorientais.
Ah, les Merlus. Voilà.
Les Merlus qui l'emportent 2-0 contre Lens.
Ah, je pense que nouveau gardien, ça change tout. Hein. Mathieu Dreyer, là, ça fait la différence.
Non, tout est là-dedans.
Exactement. Et surtout, à noter encore un but pour Soumano. Hein. Lui qu'on avait vu
notre
rentrer.
Notre magique ancien joueur de Châteaubriand.
Exactement. On avait parlé la semaine dernière quand il avait avec face à nos Nantais où il était rentré, il avait marqué. Bah, là, il marque encore. Donc, c'est une bonne victoire, une belle victoire pour l'Orienté.
L'OM aurait déjà proposé 50 000. Pour la...
Moi, j'aurais dit Watford, genre un club anglais bizarre.
Et pour l'Orient, c'est bien joué pour eux. Parce que,
Newcastle est à 100 millions.
C'est bien pour l'Orient, parce que l'Orient, avant le match, après la victoire de Saint-Étienne, est démarré la rencontre au dernier championnat et qui repasse premier relégable.
Exact, exactement. Oui. On pensait qu'en ayant vu la victoire superbe de Saint-Étienne, 2-1 en étant 3-1. Mené 3-1 en étant mené 1-0.
C'est une bonne victoire pour les Stéphanois qui se relancent avec 3 buts dans les 10 dernières minutes. Amouma, Nordin et Kasri. Donc c'est vraiment une Saint-Etienne qui
plus
se relance.
Plus très loin du maintien.
Exactement.
Mais du coup, qui reste dernier.
Mais du coup, ouais.
Avec ses 6 points engrangés en 2 matchs, les hommes de Duprat hein, qui peuvent croire au maintien.
Oui, de toute façon, il faut jouer chaque match.
Il en reste 15, donc potentiellement 45 points à être distribués. Hein.
Et il n'y a plus que 2-3 points de retard.
2 points sur le 19e et le 18e.
Mais exactement. Par contre, l'équipe qui craint encore, c'est tout même Bordeaux.
Ah bon, la bonne branlée.
Qui après un gros coup en défense et en milieu de terrain. Ça ne se fait toujours pas, ils se prennent encore à 5-0.
Ils se sont fait mousser à Reims.
Voilà, ils ont pris le champagne. Mais...
C'était champagne.
5-0. Les villageoises.
Le voisin Angevin aussi qui passe un sale week-end.
Oui, ils menaient 2-0 à Marseille et ils en prennent 5 derrière, dont un triplé de Milic.
Voilà.
Milic qui se relance grâce
à Arkadiusz Milic, 20 buts en 36 matchs avec l'OM, donc c'est vraiment un sale buteur. Pourtant, il joue pas tant que ça, on le voit pas vraiment briller, on le voit pas vraiment mis en avant par le Marseillais, alors qu'il est vraiment très performant. C'est un peu dommage parce qu'on sait qu'avec Payet en pointe, c'est pas vraiment un attaquant. Donc c'est pour ça qu'ils ont perdu cette semaine face à Lyon, le fameux match rejoué à cause de la bouteille d'eau gate.
Voilà. Oui, d'ailleurs, faut nous en parler puisqu'on s'est pas vu depuis. C'était dans la semaine.
C'était cette semaine, donc c'est la victoire 2-1 des Lyonnais qui arrachent la victoire, renversant grâce à un magnifique but de Dembélé. Jérôme Boateng a lui-même dit que Lewandowski n'aurait même pas réussi à mettre un but aussi beau que ça, donc c'est pour dire.
Magique. Et une presta XXL de Shaqiri qui marque un but et qui donne le deuxième.
Et qui part pour 7 millions.
Et qui part aux États-Unis, je crois.
Ouais. Au Chicago Fire.
C'est ça. Exactement.
C'est en négociation, c'est pas encore officiel, mais vu que Ryan Cherki vient de se blesser 3 mois face à Monaco. Ouais. C'est pas finalement pas sûr qu'il parte parce qu'on va avoir quand même besoin de lui, même si Romain Favre est arrivé. Donc bon,
on verra bien. C'est compliqué les du côté Lyonnais de toute façon. Parce que ça leur évitait de perdre trop d'argent à Lyon.
Exactement.
Comme on parlait d'équipes qui mettaient 5 buts hier soir, le PSG. 1-0 pour le PSG, un partout avec un très beau mouvement de Bernard Fa, je peux le saluer parce que je me moque souvent de lui, mais là pour le coup il a été très efficace. Lille revient un partout, on se dit ça va être un match serré, puis en fait la défense de Lille explose complètement. Exactement. Parce que Gerbich, les 2 premiers buts sont pour lui, voire les 3, enfin très mauvaise prestation du gardien lillois.
Il a été noté 1 à l'équipe.
Oui.
Hein.
C'est parce qu'il ne pouvait pas lui mettre 0.
Ouais,
et du coup, le PSG qui déroule avec Mbappé qui marquera un superbe 5e but, Messi qui met le 3e, je crois.
C'est ça.
Voilà, 3e et une passe.
Donc,
Et à noter, bonne performance de Danilo Pereira qui est...
Oui, c'est lui qui met le quatrième.
Pardon. Exactement, il met le premier et le quatrième, donc ça va être important pour le Paris Saint-Germain en vue du match en de Ligue des Champions face à, la semaine prochaine face au Real de Madrid.
Et oui, parce qu'on y arrive.
C'est ça.
Exactement, la reprise de Ligue des Champions, ça va être tonnerre de Brest.
Du coup, la Ligue 1, c'est bon?
Bah, la Ligue 1, bah, ça va être pas mal, donc on va pouvoir passer un peu à la CAN, le gros...
L'étranger d'abord.
Ah bon, on peut passer à l'étranger avait... Bah, c'est aussi l'étranger, la CAN. Hein.
Il y avait des affiches à l'étranger, Jérém.
Tout d'abord, on va juste parler vite fait de la Cup en Angleterre, où United a encore fait une contre-performance, avec un Cristiano Ronaldo qui loupe un penalty.
Une contre-performance.
Bah, il perd contre Middlesbrough en penalty, ils sont éliminés, excuse-moi...
Et Middlesbrough, du coup, qui avait été mené 1-0. Ouais. Et du coup, un partout sur le temps réglementaire et ils vont perdre au pénalty.
Mais en plus, ils égalisent au Middlesbrough avec un magnifique but. Franchement, les mains dans les poches.
Un peu caressé de la...
Voilà. Les mains dans les poches.
Ouais, il n'avait pas fait exprès.
Non, il n'a pas fait exprès, c'est Duncan Watmore qui fait.
D'autres résultats de la
Cup,
la victoire de Liverpool 3-1 sur 3. Cardiff.
C'est ça qui s'est dessiné en deuxième mi-temps grâce aux petits jeunes de Liverpool, Diego Rota, Minamino et Hervé Elliott.
Oui, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais leurs deux attaquants n'étaient pas là.
Exactement.
Everton qui se reprend avec l'arrivée de Lampard. Qui bat Everton 4-1 et Brentford qui est plutôt pas mal.
Ouais. Et après, du côté Chelsea qui a mis du mal, hein, prolongation face à Plymouth Argyle. Donc ça a été compliqué pour Chelsea qui mène 2-1, qui gagne 2-1 à la fin. Pareil pour West Ham qui, face à Kidderminster à l'extérieur, a dû s'imposer, a dû égaliser en toute fin de match du temps réglementaire par Declan Rice à la 91e. Et finalement s'impose 2-1 en prolongation. Donc ça n'a pas été simple. Sinon, tous les autres favoris, City ont déroulé contre Fulham 4-1 ou Tottenham 3-1 face à Brighton.
Tout à fait. Et noter le gros score de Nottingham Forest, 4-1 contre face à Leicester. Exactement. Nottingham qui restait sur l'élimination d'Arsenal au match juste avant.
Mm-hmm. C'est un peu l'équipe piège en ce moment du coup, en Cup. Hein,
voilà. Et surtout qu'en plus, Nottingham, à la demi-heure de jeu, menait 3-0 en 9 minutes.
Mm. Un petit mot d'Italie maintenant.
L'Italie.
Viva Italia.
Avec le grand Giroud, le derby de Milanino. Bon,
qui donne le derby milanais.
Giroud en équipe de France.
Oui, bah, bien sûr. Grâce à Giroud, hein, c'était l'Inter qui menait 1-0 à Giuseppe Meazza, puisque c'était l'Inter qui recevait.
Grâce à Perisic.
Et grâce à un super Giroud. Hein,
en 3 minutes, il signe un doublé.
Quel homme.
Très belle victoire. La Juve qui
va
un peu mieux.
Bon Mignon dans les buts, hein, bien sûr.
Bon Mignon aussi, encore Mike Mignon qui fait encore un très, super très match bien, et tout. Lui, il est en train de prouver qu'il mérite sa place de titulaire en équipe de France.
Hein. Oh oui, c'est même sûr.
La Juve qui va un peu mieux et qui bat l'Elias Vérone 2-0 avec un nouveau joueur, un nouvel arrivant.
C'est deux recrues.
Les deux recrues.
C'est Vlahovic et Denis Zakaria.
Voilà. Vlahovic a été acheté 80 millions d'euros avec bonus à la Fiorentina.
60 millions pour Zakaria, c'était encore des sommes astronomiques et tout, mais pour l'instant, du coup, ça marche bien.
Et voilà. Du coup, la Fiorentina qui n'avait plus de buteur, et ils ont perdu à domicile 3-0.
Côté Lazio.
Exactement.
Du côté un peu de l'Espagne, il s'est passé des choses ce week-end avec le FC Barcelone qui se reprend
et met 4-2 à l'Atlético Madrid.
Tout à fait. Et il notait que le dernier but du 4-2 par signé Daniel Alves, qui est officiellement le joueur le plus vieux marqué au Pau Barcelone en Liga.
Oui, on rappelle que son contrat, il a signé, il est payé.
Ils l'ont prolongé jusqu'en 2036, apparemment.
Voilà, c'est ça. Oui, du coup. Mais il ne le paye pas, en fait. Enfin, si, quand il met un but, je crois.
C'est ça.
Sinon, à part ça, le mauvais match de Séville à Sassuna qui fait qu'un simple 0-0. Valence Sociedad 0-0 aussi, et le Betis qui manque le coche en perdant 2-0 contre Villarreal grâce à des buts de Pau Torres et de Étienne Capou.
Le français. Et la bonne performance et le bon coup, c'est celle du Real Madrid qui s'est difficilement tiré de Grenade 1-0.
La petite victoire du Real 1-0 à Grenade sans Asensio. Benzema.
Asensio qui a envoyé une grosse bombe, enfin une grenade.
Dans les buts de
Grenade FC. Donc c'est une victoire qui assure pour l'instant et tranquillise la première place des Madriennes.
Un mot de l'Allemagne ?
Voilà.
Un mot de l'Allemagne.
Bundesliga. Le FC Cologne qui remonte à la 6e place et qui grâce encore à un but marqué de son français Anthony Modeste, qui est le meilleur français marqueur en Bundesliga.
Moi, j'ai vu le gros coup de calgon du Borussia Dortmund à domicile.
Ah, ça,
qui a explosé comme un pop-corn face à l'Everkusen.
Ah bah, c'est ça.
Défaite
5-2,
c'est ça.
5-2 avec notamment des buts encore de Moussa Diaby qui marque le cinquième du côté de l'Everkusen. Donc oui. c'est, il est encore bien présent, notre Frenchie de l'Everkusen.
Vraiment très présent, ouais.
Voilà. Et sinon, c'est aussi le gros match du week-end, c'était comme aussi le Bayern Munich qui recevait le... RB Leipzig et qui s'impose 3-2, grâce notamment à des buts de Müller et de Lewandowski, Nkunku encore buteur.
Voilà.
L'Eintracht qui gagne à Stuttgart 3-2, encore quelques buts.
Et vont-ils se qualifier pour la Ligue Europa comme les Strasbourgeois pour faire le derby de la saucisse que tu aimerais tant?
Oui, bah oui, je l'avais adoré.
En plus, on verra peut-être Randal Colomoni.
Exactement, pour Francfort.
Un mot de la CAN, c'était donc la finale hier entre le Sénégal et l'Égypte, les Pharaons face aux Lions de la Teranga.
Et bah... Alléluia, les Lions de la Teranga n'avaient jamais gagné.
Aliou Cissé, lui, l'entraîneur entre guillemets du Sénégal, avait subi la défaite en finale du Sénégal à son époque quand il était joueur. Terrible défaite. Et là, il la remporte en tant qu'entraîneur. C'est au tir au but face à l'Égypte. L'Égypte qui pouvait écrire l'histoire en portant sa 8e CAN. Et bah, finalement, que nenni, c'est le Sénégal qui remporte sa première.
Et du coup, c'était la grosse opposition entre Mané Salah et Sadio Mané. Et c'est Sadio Mané qui marque le pénalty vainqueur.
Voilà. Le tir au but.
Le tir au but vainqueur.
C'est différent.
Parce que le pénalty...
Le pénalty, il l'a loupé en début
Il loupe
match.
Un pénalty dans le match, oui. Voilà. Mais il met son tir au but.
Exactement. Donc, c'est une bonne victoire pour le Sénégal. À noter qu'il y a énormément de joueurs de Ligue 1 qui remportent la CAN. À noter, par exemple, Abdou Diallo, le défenseur de parisien, Paris. Abib Diallo de Strasbourg.
Alfred Gomis, le gardien de Rennes.
Bamba Dieng, l'attaquant de Marseille. Enfin, il y a vraiment un plurilège de joueurs de Ligue 1 qui du coup ont remporté cette CAN et on peut s'en féliciter.
Eh bien, c'est bien. Bravo à eux. Alors bon, il y a eu tout un tas d'incidents qui ont émaillé la CAN,
oui,
mais
bon, après voilà, c'est
une CAN à oublier quand
voilà,
même.
Voilà. Et des matchs très
pas
très
pour le Sénégal, mais
très
en termes d'organisation,
ouais, des pelouses, champs de patates, enfin bon.
Alors moi, ce qui m'a plus choqué, c'est les 8 morts à cause d'une organisation plus que foireuse.
Le Cameroun.
Et puis le Cameroun n'aura pas réussi à gagner sa CAN malgré tout ce qu'on peut supposer.
Mais ils ont quand même réussi à revenir dans le match pour la troisième place alors qu'ils étaient menés 3-0.
Oui, si, voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Les étalons du Burkinabé qui menaient 3-0 puis qui se sont écroulés et qui perdent au tir au but aussi.
Voilà. Bon, on en a fini avec le football. Maëlan, on va ouvrir notre page multisport. C'est multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans Multizone, on va parler de rugby puisque ce week-end, c'était l'ouverture du tournoi des 6 nations. Les Français recevaient en hors d'œuvre l'Italie au Stade de France.
Et c'était annoncé comme une victoire facile par tous nos amis spécialistes de rugby. La France allait torcher les Italiens.
La France vainqueur la Nouvelle-Zélande, les Italiens.
Bon, ça a été le cas.
C'était plus difficile que ça.
Ça a été beaucoup
plus difficile. La première mi-temps était vraiment très difficile.
Victoire laborieuse, comme on dit. Hein.
C'est d'ailleurs
la première mi-temps pas terrible. Ouais,
La France qui ouvre le score, mais le premier essai est italien.
Exactement, grâce à Menoncello, l'italien, et Garbidi qui le transforme. Donc à ce moment-là, on est mené quand même.
J'en ai repris deux après, du coup.
Et oui, donc l'Italie qui vraiment a mené une bonne première période. Hein. Et à la fin de la première période, on ne mène finalement que...
18-10, grâce à Gabin Villiers qui fait deux exploits.
Grâce à son bel essai en fin de premier temps.
Donc on est vraiment face à une équipe d'Italie qui a vraiment très très bien résisté aux Français en première période.
Et surtout défensivement au niveau des mêlées, des remises en jeu.
Quel impact, rien que sur les mêlées, ils avaient 70 kilos de moins, ça ne s'est pas vraiment vu. Un énorme combat des Italiens,
bon, mais après,
on attendait ça de leur part.
Mais 32e victoire de suite, défaite de suite dans le tournoi pour les Italiens.
C'est oui, mais alors moi j'ai vu des signes grâce à ce tournoi. Alors, c'était Ludo qui m'a guidé. c'est pas impossible qu'ils viennent à bout des Gallois, par exemple.
Ouais, ou...
Que
ouais,
tu trouves
ouais,
faible ouais. cette année.
Ah ben, les Gallois, ils se sont fait corriger par les Irlandais.
Ils ont failli être Fanny. Hein.
Oui, oui, ils ont réussi à arracher un essai en fin de match.
Fin de match, ouais. C'était laborieux.
Et du Exactement. Coup, ils gagnent
29-7.
29-7, ouais. les Irlandais qu'on affronte samedi
prochain. Ah bah là, voilà.
Là, ça va être une belle rencontre. Hein.
Du coup, c'est the big match ouais. pour
C'est un déplacement ou c'est une réception, je ne sais plus.
C'est réception.
Réception.
Les Français sont
Irlandais. Ouais. Okay, bon, on a de la chance de les recevoir. 17h45
samedi. On se déplace en Écosse et... Ouais, la finale avant l'heure.
Bah c'est un peu
ce qu'on peut dire, mais... c'est ce qu'ils disent.
C'est ce qui se dit effectivement.
Bah surtout quand on voit que les Écossais ont battu les Anglais 20-17.
Mais attention aux Scottish, hein, ils sont toujours présents, on les attend jamais, mais c'est eux qui l'ont par exemple il y a deux ans, nous avaient bien empêché d'aller chercher le tournoi.
Hein.
Donc attention aux Écossais.
Mais du coup oui, ça va être très intéressant dès la semaine prochaine. Et oui, pourquoi les Gallois ne finiraient pas dernier, par exemple
ouais, ou, Après, voilà, c'est vrai que ça reste quand même. Voilà, les Gallois, on sait qu'ils ont quand même des qualités, mais c'est vrai que les Italiens, cette année, quand même, on sent qu'ils progressent d'année en année et au bout d'un moment, peut-être que ça va payer.
Je leur souhaite, je leur souhaite. Ouais, parce que depuis le temps que les Anglais veulent les foutre dehors,
ouais, c'est ça.
Ça serait à pied de nez.
Ça serait bien. Et par contre, là où ça va être. Où je vois, pour moi, les Anglais vont tout miser sur le crunch.
Oh bah oui.
Ils se foutent de tous les autres matchs.
C'est le dernier match du tournoi.
Ça va être le crunch. Hein. Il va falloir manger
ouais,
du coq. Oui,
puisque les Français sont favoris hein, donc, pour la victoire finale dans le tournoi par rapport à leur tournée de
choses. Je mets quand même une bonne pièce sur le trèfle, hein, les gars.
Oui. Ouais, bah ça écoute, non, moi je vais. Si on a un autre visage qu'hier et celui qu'on avait en automne, je vois pas qui pourrait nous faire peur, mais c'est vrai qu'il faudrait que les cadres se réveillent. Hein, parce qu'hier, bah, c'était pas.
C'était un peu mollasson.
Bah, il y a eu de l'impact, ça manquait d'idées. Ça manquait d'idées et la charnière.
Ouais. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble aussi.
Ouais, c'est
forcément.
Ça. La charnière a manqué de réflexion, je
exactement.
Dirais.
Et même. D'idées. Et même, Antoine Dupont le disait, qu'il n'avait pas forcément fait tous les bons choix et tout. Donc. Voilà, ils ont eu un premier match, c'était pour rassurer, c'était face à l'Italie pour se mettre en route, et je pense que maintenant, dès le week-end prochain, ça va envoyer beaucoup plus, et parce que voilà, forcément, maintenant qu'ils ont un peu plus d'automatisme, ils reviennent ensemble.
Et puis même dans l'attitude, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop serein, trop sur deux, et pas ce petit peps de compétitivité qu'on doit avoir lieu dans le tournoi.
C'est les anciens qui leur ont communiqué cette sérénité. Oui, et surtout, je voulais remarquer, moi, c'est qu'on a deux essais qui sont des ballons volés, quoi, des contres. Ouais. Celui d'Anthony Jelonche. Et puis, j'ai plus l'autre joueur qui a mis l'essai, mais c'est pareil. C'est
bah, y avait, comment il s'appelle Penaud.
C'est celui de Penaud.
C'est celui de Penaud aussi, ouais. Donc c'est, on va falloir un petit peu faire un meilleur match, voilà.
Mais
donc,
il va falloir ouais distribuer.
Mais on est toujours du coup au classement, on est premier grâce à cette victoire.
17h45 samedi sur l'agenda France-Irlande et là ça promet d'être du grand spectacle. Il va falloir être devant sa pinte de Guinness ou autre. On enchaîne le vélo cette fois-ci, Charles. C'était l'étoile de Bessèges cette semaine qui nous intéressait.
Le Tour du Gard, c'est la première des premières épreuves françaises. Et la bonne surprise, c'est le changement d'équipe de Benjamin Thomas qui lui a fait du bien, qui le fait passer un autre cap. Et la victoire, donc au classement général pour notre Français, Benjamin Thomas. C'est une belle victoire au classement général. Il s'impose devant Bettiol et Johansen. Donc ça commence une bonne saison qui commence pour Benjamin Thomas. Lui qui est notamment champion de France du contre-la-montre.
Du coup, pour la dernière étape qui était un contre-la-montre sur l'Est.
Il a fait une belle deuxième place juste derrière, troisième place juste derrière notamment Philippe Ogana qui le remporte. Donc bon, Ghana on le connaît donc bon.
Et champion du monde lui, c'est un
autre
champion du monde.
C'est autre chose.
Donc c'est vraiment une belle perf.
Ouais. Mais Benjamin Thomas qui notamment a remporté la troisième étape entre Bessèges et Bessèges. Donc c'est son année en tout cas commence très bien.
On courait en Espagne au Tour de Valence.
C'est ça le Tour de Valence. Et bah la grosse étape de montagne, c'était notamment Alicante Antenas del Maigmo qui a finalement donné un petit peu le classement général final. C'est Alexander Vlasov du coup qui s'impose lors de cette étape et qui va du coup s'impose au classement général devant Remco Evenepoel et Carlos Rodriguez de la Ineos Grenadier, notamment Evenepoel qui remportait la première étape Là, il n'a pas réussi à conserver son maillot de leader lors de la troisième étape. En tout cas, ce tour qui commence très bien pour les coéquipiers de Evenepoel avec notamment deux victoires de Fabio Jakobsen.
La meute des loups.
Exactement.
Et il y avait le Tour d'Arabie Saoudite qui revient à un Belge de la Lotto Vangelis.
C'est ça, c'est le Belge, donc Vangelis de la
Lotto. Cette semaine, c'est le Tour de la Provence où on va retrouver notre Frenchie Julien Alaphilippe et d'autres Carapaz, Quintana.
Exactement, donc ça va être un beau tour à suivre qu'on aime bien sur l'équipe 21. Donc ça va être très sympa à suivre encore une fois avec notamment souvent le Mont Ventoux qui est présent. Donc ça va être encore une première bonne semaine avant la semaine prochaine le début des épreuves World Tour avec le Tour des Émirats Arabes Unis.
Très bien, allez, un mot de tennis. Ça a repris depuis la fin de l'Open d'Australie.
Exactement, hier on avait le droit, c'était la semaine d'un tournoi français, c'était l'ATP 250 de Montpellier. Le Kazakh Alexander Bublik a réalisé une très belle performance en s'imposant face à Alexander Zverev en finale, 6-4-6-3. Zverev qui est même tête de série numéro 1 et quand même un gros client du circuit actuellement. Pourtant le Kazakh n'a fait, on va dire, avec une bouchée, mais en tout cas il a réalisé un très très bon match avec ses nombreuses amorties qui ont dérangé l'Allemand, donc c'est vraiment une belle performance pour le Kazakh qui du coup est très bien pour l'instant en ce début de saison.
Une petite info qui vient juste de tomber au tournoi de Bundeser ATP 250, Benoît Paire a perdu contre Lajovic en 3-7, 6-4, 6-4, 7-6.
Il servait pour le match.
Pardon. Un mot de golf, les gars ?
Ouais, c'était le AT&T Pebble Beach Pro-Am. Chez les pros, la victoire est revenue à Tom Hoggie, qui s'impose d'un coup devant deux hommes.
C'est Jordan Spieth et Hosler.
Et Bo Hosler, Paul Barjon ne passe pas le cut, malheureusement. 84e avant le week-end. Il est 111e à la FedEx Cup, donc toujours éventuellement en course pour les playoffs, mais ça va être long.
Mais l'autre performance, c'est...
Pavone,
c'est ça. C'est,
3e sur l'Opéranian Tour, Mathieu Pavon.
Exactement, c'était le Ras Al Khaimah Championship. C'est le Danois Højgaard qui s'impose devant l'Anglais Smith. Pavone fait une belle 3e place, donc on est
Pavon,
content pour lui.
Mathieu
Pavon, Pavone, comme tu veux.
Voilà. Fini avec le golf, les gars ?
C'est bon.
Une petite question, est-ce que vous connaissez le rock ?
The Rock,
pas la danse, The Race of Champions.
Ah, ouais, c'est un truc avec Sébastien Loeb.
Le champion
avec
des
Vettel
champions,
aussi, non ?
Exactement, le champion des champions, Sébastien Loeb, a encore gagné. Il a battu Vettel en finale 3 manches.
Alors ça consiste en quoi, raconte-nous ?
Alors du coup, ça se passe sur la neige. C'est pas une des spécialités d'ailleurs de Sébastien Loeb. Il a d'abord éliminé des pilotes de rallye, puisqu'il a éliminé en premier Peter Solberg, après Oliver Solberg, son fils, après Mathias Eriksson, et en finale, il a croisé les pilotes de circuit que sont Sébastien Vettel, Tom Christensen ou autres pilotes de circuit. Et du coup, lui, Vettel, était le vainqueur de cette série-là et il s'est incliné. Alors, il change de véhicule à chaque fois. Ils ont conduit des Polaris, des voitures électriques.
D'accord, c'est un mixte un petit peu.
C'est un mixte. À chaque épreuve. Alors, ça fait comme les courses de rallycross, si tu veux, et il change à chaque fois.
Et c'est pas là.
C'est la 4e fois qu'il le gagne.
Ouais.
Un autre Français l'a déjà gagné 4 fois. Qui est-ce ?
Prost.
Non.
Ogier.
T'es un rallyman.
Peter Ancel.
Je crois que c'était dans les premiers à être champion du monde.
Auriol.
Voilà. Oh là là. Mais alors, quand lui, il avait gagné, c'était sur les 4 fois.
Pas Hubert, l'autre.
Exactement. Didier Auriol. Lui, il avait gagné 4 fois à Valence. En fait, c'était tout le temps sur le même circuit, donc c'était peut-être plus facile. Sébastien Loeb ne l'a jamais gagné au même endroit. Un coup sur la neige, un coup sur des circuits de piste.
Encore une grosse paire de lobes, quoi.
Voilà. Et il est toujours invaincu en ce début d'année. Bravo, lui.
Si, si, il a été battu hein, au trophée Hongrois.
Ah, il a été battu en trophée électrique, pardon. Il n'avait plus de batterie.
Bon, bah, je crois qu'on a été complet. Hein. Si vous n'avez plus rien à m'amener comme résultat ou info, alors on va laisser la place à nos potes de Passage en Force pour parler de NBA. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt et bonne semaine à tous. Ciao.
Ciao.